Une crise économique déjà historique. L'économie calédonienne est très durement affectée par les émeutes selon l'IEOM. L'indice du climat des affaires est au plus bas, tout comme la consommation des ménages. Le sport est malheureusement une Olympiade sans médaille pour Pierre Ferbanque. Le Calédonien a terminé au pied du podium, 4e sur le 800 mètres fauteuil la nuit dernière. Vous entendrez sa réaction dans ce journal. La météo en Nouvelle-Calédonie, les passages nuageux restent nombreux sur la pointe sud et les Loyautés. Ailleurs, le soleil s'impose. Le vent est toujours orienté au sud-est. Il reste fort avec encore des rafales à 40 nœuds. Les températures maximales restent fraîches et généralement inférieures aux valeurs de saison avec 22 à 25 degrés jusqu'à 26 à 27 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, la nomination d'un Premier ministre.
Oui, il s'agit de Michel Barnier. Il aura fallu 51 jours à Emmanuel Macron pour trouver un successeur à Gabriel Attal. À 73 ans, Michel Barnier devient donc le 5e Premier ministre d'Emmanuel Macron et le 27e Premier ministre de la 5e République. Il commence sa carrière en 1978 en tant qu'élu au Conseil général de Savoie. Il a alors 22 ans. Ministre sous Balladur, Juppé, Raffarin, Fillon, sénateur, député, commissaire européen à deux reprises, puis négociateur du Brexit. Un homme passionné par la politique et résolument de droite. Michel Barnier est arrivé à 18h, heure de Paris, devant le portail de Matignon pour la cérémonie de passation de pouvoir. Jacques Sorès se trouvait sur place pour Europe
1. Une passation des pouvoirs qui aura duré une heure. Michel Barnier entre dans la cour de Matignon au bout du tapis rouge. Gabriel Attal, les deux hommes entrent dans l'hôtel de Matignon. 30 minutes d'échange à huis clos. Et à la sortie, Gabriel Attal confie son sentiment d'honneur d'avoir servi au poste de Premier ministre ces derniers mois.
Être Premier ministre, c'est l'honneur d'une vie. 8 mois, c'est court. C'est trop court. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. La politique française est malade. La politique française est malade, mais je crois que la guérison est possible. À condition que nous acceptions tous de nous placer à la hauteur de cette responsabilité historique.
8 mois, c'est court, mais son discours paraissait un peu trop long aux yeux de Michel Barnier, qui, avant d'entamer sa prise de parole, a commencé par « Vous me permettez de dire quelques mots ?»
Nous sommes dans un moment grave. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre avec beaucoup d'humilité. Mais, mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Pour les Français, il faudra dire la vérité et je dirai la vérité. Je ferai tout pour être à la hauteur de leur attente et de leur espérance.
Nous allons davantage agir que parler, conclut Michel Barnier. Comme si, à ses yeux, ce n'était pas le cas avant.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Il est donc ce plus petit dénominateur commun qu'Emmanuel Macron cherchait depuis des semaines maintenant. Mais alors, quels sont les défis qui attendent Michel Barnier, Arthur Delaborde ?
L'urgence pour lui, c'est d'abord de constituer un gouvernement capable d'éviter la censure. L'ancien commissaire européen va devoir faire preuve d'habileté dans la répartition des portefeuilles ministériels. Sans majorité claire, il est impératif pour lui de trouver le bon équilibre afin de s'assurer du soutien de la coalition présidentielle et des Républicains, sans provoquer le rejet immédiat du Rassemblement national. Cet équilibre devra transparaître dans le discours de politique générale de Michel Barnier. Le RN en particulier a déjà prévenu qu'il souhaitait attendre que le Premier ministre expose ses priorités devant l'Assemblée avant de se positionner pour ou contre la censure. Or, la survie politique de l'ancien négociateur du Brexit dépendra très probablement de Marine Le Pen. Elle attend de lui la proportionnelle, le respect de ses électeurs, des mesures en matière de sécurité, d'immigration et de pouvoir d'achat. Autant dire que si Michel Barnier ne répond pas à ses exigences, il devrait très vite être renversé.
Et Michel Barnier qui apporte avec lui un programme de droite assumé sur l'immigration, l'insécurité et le budget de l'État. Une manière de s'assurer du soutien de Marine Le Pen qui a posé des conditions.
La première était encore une fois d'avoir un Premier ministre qui soit respectueux des électeurs du Rassemblement national, qui considère que le Rassemblement national est le premier groupe à l'Assemblée nationale et qu'il doit être consulté, traité avec respect. Je pense que M. Barnier correspond à ce critère.
Mais attention, Michel Barnier ne doit surtout pas perdre le soutien du Bloc central, car Renaissance prévient, on ne signe pas un chèque en blanc. Ce jeu d'équilibriste s'incarnera forcément dans la composition du futur gouvernement. Et pour Jean-Luc Mélenchon, la nomination de Michel Barnier est un déni de démocratie.
L'élection a donc été volée au peuple français. Nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ses positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie.
Un déni de démocratie également repris par Olivier Faure pour le Parti Socialiste. Quelques réactions encore, comme celle de François Hollande pour l'ancien président de la République. Il a la quasi-certitude que si Michel Barnier a pu être désigné par le président Macron, c'est parce que le RN, précisément l'extrême droite, a donné une forme de quitus, fin de citation. Une analyse partagée par la patronne des écologistes Marine Tondelier. On sait à la fin qui décide, elle s'appelle Marine Le Pen. C'est à elle que Macron a décidé de se soumettre, a-t-elle déclaré. De son côté, le président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, s'est félicité de cette nomination d'un homme d'une grande qualité qui a tous les atouts pour réussir dans cette difficile mission qui lui est confiée. Fin de citation. Michel Barnier va en effet devoir constituer un gouvernement dans ce contexte et parmi les dossiers prioritaires, il y aura celui de la Nouvelle-Calédonie. Sonia Backès est actuellement à Paris pour rencontrer justement les responsables politiques nationaux. Écoutez la réaction de la présidente de la province Sud.
Une bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie, d'abord parce que c'est un homme de droite qui partage nos valeurs, et ensuite parce qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il était candidat à la primaire des Républicains en 2021, en réaffirmant d'une part son attachement à la Nouvelle-Calédonie, mais en plus en demandant que la France réaffirme clairement son attachement à la Nouvelle-Calédonie en tant que territoire français du Pacifique. Donc ça augure plutôt de quelqu'un qui fera le nécessaire pour que la Nouvelle-Calédonie retrouve la paix dans les valeurs et dans l'objectif et le projet qui est le nôtre. Le président de la République m'a dit qu'il comptait continuer à s'occuper directement du dossier calédonien, mais le Premier ministre aura forcément son avis à donner et la mise en œuvre devra faire participer les membres du gouvernement qui sont en charge du sujet.
Réaction également ce matin de Virginie Rufenac, la chef du groupe Rassemblement au Congrès, qui se félicite de la nomination d'un homme de sa famille politique à Matignon.
Un homme de compétence de notre famille politique qui connaît le dossier calédonien et qui d'ailleurs, il y a quelques années de cela, lors des affaires des sous-marins, avait affirmé un choix relativement clair pour la Calédonie. Donc nous sommes heureux que cette personnalité assume ses responsabilités. Nous avons désormais un interlocuteur à Matignon, ce qui était important pour nous dans une période de crise aussi importante pour la Nouvelle-Calédonie. Et nous espérons que nous allons pouvoir retrouver effectivement un travail très sérieux sur le règlement de notre problématique aujourd'hui pour que les Calédoniens retrouvent une vie apaisée et puis surtout qu'on sorte la Calédonie dans des situations très difficiles dans laquelle elle se trouve.
Voilà donc pour ces premières réactions. Pour le moment, les indépendantistes n'ont pas encore réagi à la nomination de Michel Barnier à Matignon.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Va-t-il être possible, selon vous, de réunir les partenaires politiques calédoniens à Paris, fin septembre ou début octobre, comme le souhaite le président de la République? Si vous pensez que c'est possible, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voici maintenant la réponse à notre question d'hier. 99% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à la création d'une commission d'enquête du Congrès pour faire la lumière sur les liens entre certains élus indépendantistes et l'Azerbaïdjan. Ils ne sont que 1% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Et justement, Paris déconseille aux Français de se rendre en Azerbaïdjan. Cette nouvelle consigne du ministère des Affaires étrangères s'applique aussi aux binationaux. Le Quai d'Orsay estime qu'il s'exposerait à un risque d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable. Cette cellule de crise déclare qu'en cas d'arrestation, le respect des droits fondamentaux n'est pas garanti. Bakou, de son côté, critique vivement cet avertissement lancé aux voyageurs français, dénonçant des allégations infondées. Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, le sommet du Forum des îles du Pacifique, réuni à la fin du mois d'août à Tonga, a acté l'envoi d'une mission d'information en Nouvelle-Calédonie. Le périmètre de cette mission a été validé lors du forum, mais alors qui fera partie de cette mission? À quelle date est-elle programmée et quel sera son but? Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de France pour le Pacifique, sera notre invitée ce matin à 7h30. Et puis c'est Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie numérique, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur le PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction préparé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et plus globalement sur l'actualité calédonienne. Christopher Gigès, invité de Transparence, c'est à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Il est 6h, passé de 41 minutes, vous écoutez Radio Rythme Bleu, la suite de l'actualité sur le territoire, ce sera juste après la pause.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Et toi, tu sais comment on reconnaît le goût d'un bon café en Calédonie ?
Ça commence par... Après, ça fait... Ensuite, ça fait... Et là...
Tu connais ?
Eh oui, c'est la boîte Nescafé. Un café au goût unique, riche et intense. La boîte Nescafé, le vrai goût calédonien.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et encore une nuit agitée à Nouméa. À 22h d'abord, les pompiers sont intervenus sur 3 départs de feu au dock de la Croix-Rouge à Montravel. Le feu a été rapidement circonscrit et les dégâts sont limités. Plus tard, à 3h du matin, un véhicule a été incendié rue Floquet à la vallée du Tir. Les flammes commençaient à se propager à une maison. Les pompiers ont dû évacuer les habitants, une petite fille de 4 ans, sa maman et son grand-père, tous en état de choc. Là encore, le feu a pu être rapidement circonscrit avec des dégâts à la marge pour cette habitation. Des habitants de la vallée du Tir ont encore signalé plusieurs bruits d'explosion dans la nuit à proximité de la salle anéantie. Et puis, on signale encore un feu de brousse survenu hier après-midi à Connay. Son origine n'est pas connue, mais l'incendie se serait déclaré vers 16h, juste derrière le collège et l'internat. Il s'agit donc d'un feu de brousse. Et puis, on parle de l'actualité judiciaire maintenant avec le procureur de la République qui réagit à cette affaire dénoncée par le FLNKS, Isabelle Pelletier.
Oui, les faits remontent au vendredi 30 août. Une jeune femme de 22 ans affirme avoir été agressée alors qu'elle se rendait à pied à son domicile. Très alcoolisée au moment des faits, elle déclare avoir été frappée et violée par 5 individus, dont 4 portaient une cagoule noire et des gilets pare-balles, mais aucune inscription. Le procureur de la République, Yves Dupas, confirme qu'une enquête a été ouverte immédiatement. Il indique à ce stade de l'enquête qu'aucun auteur n'est identifié, mais que rien ne permet de mettre en cause les forces de sécurité intérieure. Pour le procureur de la République, la récupération politique est très dangereuse, alors que les investigations ne font que commencer, et il adresse directement un message au FLNKS.
Pour ma part, je reste dubitatif par rapport à la démarche du FLNKS qui a dénoncé cette procédure. Bien sûr, par rapport à tout risque d'exploitation à des fins politiques de cette affaire, quand les sphères politiques s'intéressent et commente certaines affaires judiciaires en cours, notamment avec des enquêtes en cours. Bien évidemment, le risque d'exploitation politique est bien là. Maintenant, si le FLNKS veut apporter une contribution dans la lutte contre les violences faites aux femmes sur ce territoire, problématique majeure, sa contribution contre la banalisation des violences sexuelles dans certaines communautés, je les invite à contacter des associations de victimes, la DAVI ou l'association SOS Violence, qui pourra aussi répondre à certaines demandes d'information de cette structure politique.
Le procureur de la République réaffirme que la justice travaille en toute impartialité. Il précise aussi que d'importants moyens ont été déployés pour faire toute la lumière sur cette affaire.
C'est nécessairement devenu une affaire sensible, une procédure particulière. Ceci étant, le parquet entend mener cette enquête de manière totalement impartiale, avec objectivité, avec rigueur. Et je peux d'ailleurs vous indiquer que nous avons engagé pour 2 millions de francs de frais de justice pour l'exploitation de traces biologiques, dans ce dossier. Donc ça veut dire que le parquet, effectivement, a pris, dès la révélation de ces faits, la décision de diligenter une enquête de manière à élucider cette affaire dans les meilleures conditions possibles et les meilleurs délais possibles.
Le procureur de la République souligne encore qu'à ce stade de l'enquête, les éléments de la procédure ne peuvent autoriser quiconque à insinuer, voire à affirmer que des agents appartenant aux forces de sécurité intérieure sont impliqués dans les faits supposés. L'enquête se poursuit. Elle est confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Nouméa.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h46.
L'économie de Calédonienne est très durement affectée par les émeutes. C'est le titre de la note conjoncturelle de l'IEOM qui a été publiée la nuit dernière. Et elle concerne, Isabelle Pelletier, le deuxième trimestre de l'année. Et donc on va revenir dans un instant sur l'ISEE donc qui a publié cette note conjoncturelle. On va passer à un autre sujet dans un instant. On va juste marquer une pause publicitaire et se retrouver juste après. Il est 6h passé de 46 minutes, la suite de l'actualité, ce sera juste après ça.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Le réseau national des CCI se mobilise. Votre chambre s'entoure d'experts pour renforcer son aide auprès des entreprises impactées par la crise. Bénéficiez gratuitement jusqu'à 4 heures d'accompagnement par des consultants financiers, juridiques et en droit des assurances. Contactez-nous à soutien@cci.nc ou au 05 03 03. Vos conseillers CCI sont à votre écoute. Vous aider est notre priorité.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Comment développer l'économie de la province des Îles en période de crise? Le Forum de la relance économique et de l'innovation des îles Loyauté s'achevait hier à Lifou, Léo Fichou.
Des acteurs du monde économique réunis pour discuter de tourisme, d'autosuffisance alimentaire ou encore de foncier. L'objectif, entre autres, repenser l'entrepreneuriat en province des Îles, comme l'explique Cédric Icheco, directeur de l'agence Îles Loyauté Explorer.
Depuis hier, on a eu des tables rondes. On a fait une première partie pour évoquer d'où l'on part sur les différents secteurs agriculture, pêche, tourisme, foncier et autres pour pouvoir réorganiser un peu le développement économique en province des îles Loyauté. Donc on pense à faire appel le plus au talent humain du vivier en province des îles, la création de fonds d'épargne pour être un peu plus autonome au travers des aides et sur de l'investissement sur de futurs entrepreneurs, retravailler sur la psychologie et la mentalité dans l'art et la manière d'entreprendre en province des îles, donner un accès aux formations dont la gestion doit être beaucoup plus explicite, de permettre à nos gens de s'épanouir dans l'entrepreneuriat. Donc pas mal de préconisations à ce sujet pour que la valeur humaine soit bien mise en avant.
Cédric Icheco qui insiste, la sécurisation des îles est nécessaire pour permettre une relance économique. La semaine dernière encore, la grande case du Wetch à Lifou était incendiée.
Et je le disais, l'économie calédonienne est donc très durement affectée par les émeutes. C'est en tout cas le titre de la note conjoncturelle de l'IEOM qui a été publiée la nuit dernière. Et elle concerne le deuxième trimestre de l'année, Isabelle Pelletier, c'est-à-dire juste pendant les émeutes.
Oui, l'IEOM note que les indicateurs conjoncturels sont mal orientés. L'indice du climat des affaires, c'est-à-dire le niveau de confiance des chefs d'entreprise en l'avenir, s'effondre à un niveau historiquement bas, le plus bas depuis la création de l'indicateur à 64,1. De nombreuses entreprises ont été partiellement ou complètement détruites, tandis que les autres ont été confrontées au blocage des axes de circulation par les émeutiers. 85% des entreprises déclarent ainsi une dégradation de leur activité au deuxième trimestre. Près de 6 entreprises sur 10 craignent une défaillance au cours des 12 prochains mois. Là aussi, c'est du jamais vu. Beaucoup de salariés se sont déjà retrouvés au chômage. Dans ce contexte, les Calédoniens ont moins consommé après les émeutes. Cette baisse de la consommation serait même plus importante que celle observée lors des confinements liés à la pandémie en 2020 et 2021. Les prix à la consommation ont augmenté de 2% sur le trimestre. Sur le trimestre encore, les transactions par carte bancaire ont chuté de près de 17%. Le nombre de personnes s'étant vues retirer leur carte bancaire progresse de 15,6% sur la même période. L'IEOM note également que les importations ont baissé de 34% et pointe aussi une très forte baisse du crédit à l'habitat. Ils ont été divisés par deux.
Radio Rythme Bleu, 6h50.
Vulgariser les travaux des doctorants auprès du grand public, c'était le but des doctoriales organisées hier à l'Université de Nouvelle-Calédonie par l'école doctorale. Il s'agit d'un concours. Les travaux de Sébastien Guillermin, de Céphas Rouma et de Jean-Marie Sanson ont été récompensés. Ils ont reçu un chèque de 300 000 francs. L'objectif est bien les aider à poursuivre leurs recherches. Sébastien Guillermin a présenté son étude de la dynamique des communautés coralliennes des récifs isolés de Nouvelle-Calédonie.
En tout cas, sur les deux années où on a suivi ces communautés coralliennes, on a pu estimer le recrutement, la survie de ces coraux dans un contexte où les océans se réchauffent. Donc il est assez urgent de constater leur état de santé et leur dynamique dans le temps. On n'a pas beaucoup l'occasion, quand on est en doctorat, d'avoir un retour sur notre travail de l'extérieur. C'était une première expérience pour moi et c'est extrêmement gratifiant de voir qu'on a pu transmettre un message, qu'il a été compris et que c'est récompensé par un prix. Et
pour Jean-Marc Boyer, le directeur de l'école doctorale, cette journée est une réussite.
Des sujets très variés du monde. Ce matin à l'université, l'amphi était bien rempli. Cet après-midi, on a été accueillis par le président de la CCI. On voit la maturation entre les premières années et puis ceux qui sont en deuxième année et plus. Ils sont beaucoup plus à l'aise, à l'oral, etc. Ça fait partie de la formation. Hein. Participer au doctorial, ça fait partie de la formation au sein de l'école doctorale. Comme MT180, etc. Ce sont des événements de l'école, mais ça compte dans la formation pour eux. Ils ont un certain nombre de points à acquérir. Eh bien, les doctorales, c'est 10 points sur 60.
Et j'ajoute que Sébastien Guillermin participera en mai prochain au doctorial à l'université de Polynésie. Un espace de discussion pour parler des soins palliatifs et de la mort de manière ouverte et sans tabou. C'était tout l'enjeu hier du Forum des soins palliatifs et des associations de santé. Il se déroulait sur le site de l'ACH à Nouville, Isabelle.
Oui, avec au programme des causeries autour des soins palliatifs ou de l'organisation des obsèques. L'occasion de répondre à des questions que tout le monde se pose sans forcément oser en parler. Christelle Kern est infirmière coordinatrice du réseau de soins palliatifs. Elle animait un atelier à ce sujet hier après-midi.
On a expliqué au grand public ce qu'étaient les soins palliatifs et quelles étaient les missions du réseau. C'est des questions qu'on se pose tous un peu dans notre quotidien. Et auxquelles nous n'avions pas de réponse, en tout cas en tant que réseau de soins palliatifs. C'est vraiment un domaine qu'on méconnaît et voilà, sur lequel on avait envie de sensibiliser le grand public. Il y avait des personnes plutôt curieuses, justement, pas mal de familles en fait, qui soit avaient déjà vécu des situations similaires ou justement étaient confrontées là actuellement à des questionnements auxquels ils n'avaient pas de réponse. Visiblement, ils étaient plutôt contents des échanges et des discussions abordées.
L'un des objectifs de cette journée est donc parler de sujets lourds mais avec légèreté. Le forum s'est poursuivi avec une causerie sur l'anticipation des obsèques alors que la fin de vie est déjà annoncée.
Merci Isabelle, il est 6h53, on va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive avec les Jeux Paralympiques et malheureusement Pierre Ferbanque a terminé 4e sur le 800 mètres la nuit dernière.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Hey, le mois du pick-up, c'est en septembre au Village Automobile, au PK4. Des prix exceptionnels sur tous les pick-up. Une occasion unique pour repartir au volant des légendaires Isuzu D-Max, Peugeot Land Trek, Great Wall Motors King Kong et Wingle 7. Des offres à partir de 2 895 000 francs TTC seulement. Alors rendez-vous au Village Automobile au PK4 Nouméa, ouvert la semaine en continu et aussi le samedi matin. Offre valable jusqu'au 30 septembre 2024 sur les véhicules disponibles en stock, voire conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal avec le sport et à la une, les Jeux Paralympiques.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Les Jeux Paralympiques de Paris et malheureusement, Pierre Ferbanque les termine sans médaille, Léo Fichou.
Le Calédonien avait terminé 6e sur le 400 mètres, 5e sur le 100 mètres et ce matin, il a terminé au pied du podium, 4e sur le 800 mètres fauteuil. Une belle course tout de même pour Pierre Ferbanque qui disputait son dernier 800 mètres paralympique.
Je suis bien parti et il me manquait un peu de vitesse pour rester au contact du groupe de tête. Et après, j'ai continué sur mon élan et j'ai essayé de ne pas me faire dépasser. Donc voilà, dommage pour la médaille. C'était jouable, mais je n'avais pas la vitesse qu'il fallait. Satisfait de cette course, mon dernier 800 mètres aux Jeux Paralympiques avec un public fantastique et une organisation incroyable. Merci aux bénévoles forces de l'ordre pour nous faire des jeux parfaits.
Le Calédonien Pierre Fairbanks qui termine quatrième donc ce matin du 800 mètres fauteuil.
Un peu déçu évidemment pour le Calédonien, mais la délégation tricolore continue sa moisson de médailles avec 11 nouvelles breloques cette nuit.
En cyclisme sur route, d'abord les Français continuent effectivement leur razzia de médailles. Florian Joigny en or, Mathieu Borodon aussi. Toujours en cyclisme sur route, Loïc Vergniaud et Johan Quaille, eux, décrochent l'argent. De l'argent aussi pour Sandrine Martinet en judo. En paratir sportif à la carabine sur le 50 mètres couché, Jean-Louis Michaud termine sur la troisième marche du podium. Des médailles aussi en paranatation. Hugo Didier qui remporte sa troisième médaille olympique paralympique sur ces Olympiades. Il termine deuxième du 200 mètres 4 nages devant un autre Français, Hector Denayer. Laurent Chardard décroche lui aussi le bronze sur 100 mètres nage libre. Et puis du bronze en escrime pour l'équipe de France homme en fleuré. Victoire lors de la petite finale 45-36 sur l'Italie. On termine avec de l'athlétisme. Timothée Adolphe, lui, vice-champion paralympique du 100 mètres. Il termine à 300 de l'or, c'est sa deuxième médaille d'argent après celle obtenue sur le 400 mètres. Et donc au classement des médailles, la France reste 5e, 61 podiums, dont 17 médailles d'or. C'est la Chine qui est toujours en tête devant la Grande-Bretagne et les États-Unis.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Le reste de l'actualité sportive du cyclisme et cette victoire espagnole cette nuit sur la 18e étape de la Vuelta.
Membre de la bonne échappée, l'enfant de Pampelune, Urco Berade Fernandez, a remporté sur les routes du Pays Basque la première victoire de sa carrière sur un grand tour. Au classement général, Ben O'Connor est toujours en tête avec 5 secondes d'avance sur le grand favori Primoz Roglic. Henrik Maas complète le podium. Deux Français sont encore dans le top 10. David Gaudu monte sur la cinquième place. Pavel Sivakov est 9e.
Et puis du tennis maintenant, puisqu'on connaît les affiches du dernier carré de l'US Open.
Chez les hommes, Yannick Sinner a battu hier en quart de finale Daniil Medvedev, une victoire en 4-7. Le numéro 1 mondial affrontera demain le Britannique Jack Draper dans l'autre demi. Duel 100% américain entre Taylor Fritz et Frances Tiafoe. Chez les dames, l'américaine Jessica Pegula est au rendez-vous des demi. Elle a battu hier la numéro 1 mondiale Iga Swiatek en quart. Dans la matinée, en demi, elle sera opposée à Carolina Muchova. Dans l'autre demi, on retrouve une autre américaine, Emma Navarro, contre Arina Sabalenka.
L'actualité sportif sur le territoire avec les activités en club qui reprennent petit à petit. Il faut donc penser à prendre ou renouveler sa licence. Et pour Saléo, le certificat médical est obligatoire.
Et dans cette période qui reste difficile financièrement pour de nombreux Calédoniens, le CTOS et le gouvernement mettent en place un dispositif gratuit des permanences sans rendez-vous avec des médecins à Rivière-Salée, au Vallon d'Or, à Boulary ou encore à Dumbéa. L'objectif est simple pour Nathalie Delanduit, chargée de mission au CTOS, permettre aux personnes d'obtenir gratuitement un certificat médical.
Un certificat est obligatoire pour une pratique sportive en club et ça peut être un frein financier. Et puis aussi, parfois, il n'y a pas de médecin dans le quartier, aux alentours, donc à disposition des personnes. Donc voilà, c'est leur permettre, et notamment aux jeunes, de reprendre l'activité sportive ou bien de renouveler leur licence. Il suffit de venir avec son carnet de santé et accompagné, si on est mineur, d'un des parents. C'est prioritairement réservé aux jeunes. On va dire jusqu'à 21 ans.
Mercredi après-midi à Magenta, par exemple, 24 personnes ont pu avoir gratuitement leur certificat médical. Les dates des prochaines permanences sont à retrouver sur notre site internet rrb.nc.
Merci Léo Fichou, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et c'est à vous Thierry.
Oui, on est en vigilance jaune avec un vent violent, donc c'est de Bouloupari à Comac, de Thiou à Ouailo pour un vent soufflant par moment ou en tour des 25-30 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 40 nœuds aux environs de 75 km/h. Cet après-midi et en soirée, la nuit prochaine sur les communes de Poumouégua et Pouébo. Ce matin, le nord et l'ouest bénéficieront d'un large éclairci. Ailleurs, les plaques de nuages bas tarderont à se dissiper. L'Alizé, lui, orienté sud-est pour ce matin, entre 20 et 25 nœuds et des rafales prévues à 30-35 nœuds. Cet après-midi, les passages nuageux resteront nombreux sur la pointe sud et au Loyauté. Ailleurs, le soleil s'imposera toutefois en fin de journée. Des nuages se développeront sur le relief nord. Ils s'étaleront ensuite vers la pointe nord et le long des côtes. Le vent toujours orienté sud-est pour cet après-midi. Il reste fort entre 20 et 25 nœuds et des rafales prévues à 30-35 nœuds, voire 25 nœuds et des rafales à 35, voire 40 nœuds sur l'ouest et plus localement sur l'est. Les températures maximales restent fraîches, généralement inférieures aux valeurs de saison, entre 22 et 25 degrés et jusqu'à 26, voire 27 degrés, ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Il sera disponible en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc.